CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour et bienvenue sur le plateau de « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, nous allons voir si c'est possible d'être heureux. Et je casse le suspense, oui, c'est possible, mais nous allons voir comment on peut être heureux et quels sont les freins également à notre bonheur. Et nous avons un invité aujourd'hui, Denis Morissette. Bonjour Denis.
Bonjour.
Tu vas bien ?
Très bien, merci.
Merci d'être avec nous sur le plateau de Bonjour chez vous. C'est une grande première, c'est ouais. Ça, hein ? On l'a jamais fait encore.
Non,
hein ? C'est une grande première.
Première fois.
Et tu as un ministère vraiment au niveau de la relation d'aide, soins pastoral. On sait que tu prends soin de beaucoup, beaucoup de personnes. Tu as pris soin de beaucoup de personnes et tu le fais encore. Tu es également enseignant dans des écoles bibliques, instituts de théologie et conférencier. Une vie bien active
bien
au service
remplie,
du Seigneur.
Bien rempli. Je tire le meilleur de la vie.
Ah, c'est bien, c'est bien. C'est une bonne chose, ça. Et aujourd'hui, tu vas faire une rubrique conseil du coach. On va parler du bonheur parce que tu as écrit un livre. Nadine l'a présenté la semaine dernière. Tu as écrit un livre à ce sujet. Est-ce que rapidement tu peux nous dire quelques mots sur ce livre?
Et en fait, il y a une histoire derrière l'histoire. C'est que lorsque je me suis... Bon, bien évidemment, les gens qui venaient me rencontrer, me consulter avaient leur vie mal en point. Donc, eux aussi cherchaient à être heureux. Puis je me posais la question. Et un jour, je suis en train de bouquiner chez un grand libraire. Je vois plein de livres sur le bonheur, le Dalai Lama, les psychologues sur le bonheur. Puis je regarde dans la rubrique chrétienne ou religieuse, puis je vois rien sur le bonheur. Comme si le sujet avait été un peu évacué, oublié, tout ça. Et lorsque je suis revenu à la maison, j'ai regardé dans le Nouveau Testament, bien sûr, dans l'Évangile, pour découvrir que c'est le premier message que Jésus a prêché, du moins celui qui est documenté dans les Saintes Écritures, c'était sur le thème du bonheur. Donc, c'est intéressant qu'il ait adressé ce sujet 2000 ans avant notre temps sur des préoccupations très modernes, mais qui étaient là à l'époque aussi.
Exactement.
Bien sûr.
Exactement. Et ça, t'en parles dans ton livre. Ouais. Tu vas en parler tout à l'heure dans la rubrique Conseil du coach. Ouais. Tu vas nous dire si le bonheur est possible et comment il est accessible.
Ouais.
Et donc, cette émission est vraiment dédiée à la joie, au bonheur. Donc, on va s'efforcer d'être de bonne humeur et souriant.
C'est pour ça que tu m'as invité aujourd'hui.
Exactement. C'est pour ça qu'Annabelle est là, notre rayon de soleil. Oh. Et Annabelle, on va commencer avec toi de manière totalement lumineuse dans la pensée du jour.
Quand on est malheureux, on a tendance à le savoir et puis aussi quelquefois à le faire savoir aux autres. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que peut-être, sûrement, tu es heureux, mais que tu ne le sais pas. Et je me souviens, il y a quelque temps, j'avais vu un post sur les réseaux sociaux et qui montrait que justement, on était plus heureux qu'on le pensait. Et on se plaint parce qu'on a beaucoup de vaisselle à faire, mais si on a de la vaisselle, ça veut dire qu'on avait de la nourriture et qu'on avait de quoi manger. On se plaint parce qu'on a beaucoup de linge à laver, beaucoup de lessive, mais ça veut dire aussi qu'on a des habits à porter et qu'en fait, on regardait du mauvais côté, on avait la mauvaise perspective. Et quelquefois, on estime qu'on n'est pas heureux, qu'on n'a pas de bonheur dans notre vie parce qu'on regarde de la mauvaise direction. Et on se dit, si j'avais moins de kilos, je serais plus heureux. Si j'avais plus de cheveux, moins de cheveux, plus de pouvoir, plus de travail ou moins de travail pour certains, je serais plus heureux. Et en fait, on base notre bonheur, on base notre évaluation de notre bonheur sur des fausses mesures où on définit mal notre bonheur et on passe à côté de ce qui pourrait vraiment nous rendre heureux. On passe à côté de notre vraie joie. On passe à côté de notre vie au final et puis on pense qu'on est malheureux. Et j'aimerais aujourd'hui que vous puissiez vous laisser ouvrir vos yeux, que le Seigneur puisse ouvrir vos yeux pour vous montrer des choses peut-être que vous n'avez jamais réalisé que c'était des vraies sources de bonheur dans votre vie. Et peut-être vous connaissez cette histoire de Élisée avec son serviteur. Il y a toute une armée qui arrive et le serviteur commence à avoir peur. Il dit « Mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Et là, Élisée fait cette prière et dit « Seigneur, ouvre-lui ses yeux. » Et quand le serviteur, ses yeux se sont ouverts, il a vu qu'autour de lui, il y avait toute une armée, des chars de feu pour les protéger. Et dans notre vie, il y a toute une armée de bonheur, toute une armée de joie. Et ma prière est que vous puissiez ouvrir vos yeux sur vos richesses, des richesses qui ne sont pas matérielles, mais des richesses telles que la paix. Si vous avez la paix dans votre foyer, vous êtes un homme et une femme heureuse. Des gens payent très très cher pour essayer d'avoir la paix. Alors aujourd'hui, encore une fois, c'est ma prière que Dieu vous ouvre les yeux sur votre bonheur pour que vous puissiez le voir et que vous puissiez le vivre.
Amen, amen. C'est notre prière à tous pour vous. Et ça m'a rappelé la première fois, mon mari et moi, on s'est acheté notre maison, un beau petit jumelé. Puis c'était la première fois de ma vie que j'étais propriétaire. Moi, j'ai vécu dans un HLM avec mes parents toute ma vie. Puis ensuite, quand on s'est marié, on a été locataire pendant plusieurs années. Et quand on a acheté notre maison, on s'est assis dans notre canapé, on avait vidé nos cartons. Et puis on s'est regardé, puis on s'est dit, on n'est pas plus heureux qu'avant. Parce qu'en réalité, c'est ça, le bonheur ne dépend pas forcément de toutes ces choses qu'on croit. Si j'avais ça, je serais plus heureux. Si j'avais ça, quand je serais comme ça, je serais plus heureux, plus heureux. Alors qu'en fait, le bonheur, c'est simplement un état qu'on peut vivre et qu'on peut profiter, parce qu'on est conscient, en fait, de la grâce qu'on a simplement d'être en vie.
Et le bonheur, c'est pas une destination. Il n'y a pas un chemin vers le bonheur. Le bonheur, il est en chemin dans ce que tu racontais, c'est-à-dire de changer notre attitude, de voir différemment, de concevoir différemment. Je veux rebondir aussi sur ce que tu disais, l'appartement, c'est tout la même chose. Nous, les gars, on carbure sur les voitures et tout ça. Quand j'avais ce modèle, je vais être hyper heureux, puis on est heureux, quoi, 3-4 jours, le temps de, jusqu'au premier paiement, jusqu'au premier versement. La réalité, c'est que le bonheur, je crois qu'il est profondément spirituel et rien de ce qui est matériel peut venir combler ce qui est à l'origine des spirituels. Donc, c'est éphémère, c'est temporaire, tout ce bonheur matériel. Hein. Donc voilà pourquoi il faut revoir un petit peu nos valeurs, ce à quoi on accorde de l'importance et tout cela.
Exactement. Je pense que vraiment, on a besoin de développer la reconnaissance dans nos vies.
Ouais. On a facilement tendance à voir ce qu'on n'a pas et puis ça nous rend malheureux parce que ce qu'on n'a pas, c'est ce qu'on aimerait avoir. Ouais. Et puis on oublie vraiment ce qu'on a, ce qui est... Il y avait... Souvent, ça arrive. Par exemple, on fait une fête et on va inviter 50 personnes, mais il y en a une qui est pas là. Et puis, tu vois la personne qui fait la fête. Moi, je le dis parce que ça m'insulte quand je fais partie des 50 personnes présentes. Mais tu vois la personne, oui, c'est super, mais un tel a pas pu venir et tout. C'est là, on est tous là. Tu peux pas juste être content qu'on soit tous là. Mais c'est un peu une image de la vie. Quelquefois, on a tout. On a l'impression qu'il nous manque une chose. Mais quand on reste regarder ce qu'on pense qui nous manque, on profite jamais de ce qu'on a réellement. Puis on se sent toujours comme pauvre. Pas pauvre forcément d'argent, mais pauvre dans le sens, on est tout le temps dans le manque. On a tout le temps besoin de quelque chose. Mais parce qu'on ne réalise, on ne regarde jamais ce qu'on a et on ne l'utilise pas non plus.
Exact.
Le bonheur en accident. Il coûte cher. C'est toujours le dernier gadget, la dernière trouvaille et tout ça. Il faut voyager dans d'autres pays pour s'apercevoir que dans la vie simple de tous les jours, eux trouvent plus de bonheur que nous dans toutes nos recherches d'acquisition et de vouloir toujours plus. Et donc, le bonheur n'est pas le même pour tous. Hein.
C'est ça. Mais c'est ce que tu disais au début, c'est que le bonheur est avant tout spirituel. Ouais. Et quand on comprend ça, on comprend qu'il ne dépend pas de toutes ces choses naturelles qui sont autour de nous. Et en fait, le bonheur, c'est le fait de connaître Dieu. Ouais. Le fait de pouvoir avoir l'assurance du salut, ne serait-ce que ça, me procure, moi, un bonheur indescriptible. Ouais. Et en fait, quand j'ai connu le Seigneur, j'ai réalisé que tous les moments de joie que j'avais pu vivre avant étaient comme de la poussière, comme de la boue, finalement, comparé au bonheur que je pouvais expérimenter d'avoir le Seigneur dans ma vie. Même dans les temps difficiles, il y a une paix, un bonheur, une sensation tellement extraordinaire de savoir qu'on appartient à Dieu, que Dieu nous aime, que Dieu nous chérit tendrement, que quoi qu'il en soit, en fait, il y a une joie qui est là, qui ne peut pas être enlevée, en fait.
Oui. Et c'est ça la différence entre le bonheur que nous offre... ce que j'appelle le bonheur à la manière de Dieu ou selon Dieu, et ce que nous offre tout cet univers qui nous entoure, cette société qui nous entoure, qui nous propose toutes sortes de voies vers le bonheur, mais qui en fait sont plus souvent qu'autrement des voies sans issue. Hein.
Exactement.
Donc, les gens ne sont pas plus heureux.
Et mince.
T'as perdu ton idée?
Oui, non, c'est ça. C'est que Jésus a dit à ses disciples, réjouissez-vous parce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Ouais. Et il a dit, réjouissez-vous. Donc, c'est aussi une décision qu'on doit prendre de se réjouir, d'accepter que le fait que mon nom soit écrit dans le livre de vie, le fait que je connaisse Christ, ça peut être mon bonheur. Et de pas accepter le mensonge, non, c'est pas suffisant. Non, on a quand même besoin d'autre chose. Non, c'est suffisant parce que Jésus l'a dit. Et Jésus est au courant aussi des tribulations, il est au courant des sources de souffrance, et ça veut pas dire qu'il y a rien qui va nous rendre malheureux, ça veut pas dire que tout est beau, que tout est facile, etc. Mais il y a une joie qui est supérieure, et supérieure à toutes ces souffrances, supérieure à tous ces moments de chagrin et de tristesse qui peuvent être très grands, mais la joie qu'on peut avoir en Dieu est encore plus grande. Donc ça n'annule pas, c'est pas l'un ou l'autre, c'est juste que la joie que Dieu nous donne est plus grande que toutes les tristesses, toutes les souffrances par lesquelles on peut passer. Je peux parler vite fait des réseaux sociaux.
Mais oui.
Les réseaux sociaux aussi, c'est un nouveau mal, je dirais, pour contribuer au malheur quand on se pense malheureux, parce que on en parle souvent, mais c'est vraiment une réalité. On regarde la vie des gens et ça nous montre encore plus ce qu'on n'a pas et ce qu'on croit que les autres ont. Et finalement, c'est un peu comme l'image de quelqu'un qui a faim, qui a besoin d'être rassasié, mais qui regarde quelqu'un d'autre manger. Moi, si je regarde Denis manger, je veux dire, ça ne me comble pas, ça ne me rassasie pas, j'ai besoin de manger pour moi-même.
Ou à la limite, quand tu regardes le menu, tu as beau avoir de belles photos, c'est pas nourricier.
Exactement.
J'ai besoin de manger mon propre repas pour être rassasié. Et je crois qu'une des sources du bonheur aussi, c'est de tout simplement vivre sa vie et d'arrêter de regarder les autres vivre leur vie, d'imaginer leur vie, de convoiter leur vie. Quand je vais vivre ma vie, en fait aussi, je vais faire des ajustements parce qu'il y a besoin quelquefois d'ajustements. Et je vais, juste le fait de vivre, c'est une source de joie et de bonheur. Mais regarder les autres vivre, c'est plombant en fait.
C'est terrible, puis en plus c'est un bonheur truqué sur les réseaux sociaux, on le sait, on l'a déjà tous vu.
C'est imaginaire.
C'est ça, cette photo qu'on a fait où on a juste rangé parfaitement le coin du salon, posé le verre parfaitement, la lumière est parfaite. En gros plan c'est magnifique, mais en plan large on voit qu'en fait la maison est en désordre, que c'est la catastrophe. Donc c'est un bonheur fabriqué, mais on fait croire qu'on est tellement heureux et finalement ça rend malheureux ceux qui vont nous regarder parce qu'ils mettent ça en parallèle avec leur propre vie, ils disent moi je vis pas ça, et c'est ça qui est terrible. On peut regarder notre verset du jour qui est une déclaration que je vous invite à faire à la maison. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est le psaume 23:6. Vous pouvez l'afficher dans votre chambre à coucher, dans votre salle de bain, votre cuisine, votre salon, partout où vous voulez, pour vous le répéter et vous approprier ça, parce que grâce à Dieu, vous avez accès à un bonheur illimité. Ça n'a pas de prix, en fait.
Mais ça, par contre, ce bonheur, néanmoins, prend sa place dans les conditions réelles de la vie. Il y a des gens qui nous écoutent qu'ils ont toutes les raisons de ne pas être heureux parce qu'ils vivent dans des situations difficiles, que ce soit au niveau de leur mariage, au niveau des relations familiales et tout ça. Donc, mais cette promesse-là demeure quelque chose auquel ils peuvent avoir accès en regardant différemment, encore une fois, puis en se concentrant davantage sur la source première du bonheur qui est le Seigneur lui-même.
Exactement. C'est vraiment une décision à prendre, et dans l'émission qu'on a fait hier, on a parlé de cette paix à laquelle on peut avoir accès dans les temps de tempête, et par rapport à ce que tu dis, Denis, c'est exactement ça. C'est cette décision de regarder vraiment à la source de notre joie, la source de notre bonheur. Et c'est certain que pour des personnes qui nous écoutent, là, on parle de bonheur et de joie, mais c'est quasiment quelque chose qu'ils n'ont jamais connu. C'est presque un mot qui n'a pas de sens parce qu'en fait, ils n'y ont pas goûté. Mais je veux vous encourager à vous approcher vraiment de celui qui peut vous combler de sa joie de manière surnaturelle. Malgré les circonstances que vous vivez, malgré ce que vous traversez, vous pouvez vraiment goûter à cette joie surnaturelle, ce bonheur surnaturel. C'est une sensation qui va venir de l'intérieur et pas de l'extérieur. C'est là toute la différence. Mais je veux vous encourager, vous y avez droit, vous y avez accès, et Dieu veut que vous puissiez en bénéficier. Dieu, quand il a déversé sa joie dans ses enfants, il n'a pas dit non, toi, tu n'y auras pas accès. Il en a donné à tous la même chose, et vous avez accès aux mêmes choses que votre frère, votre sœur, que vous voyez peut-être à l'église tout sourire tous les dimanches. Vous aussi, vous avez droit au bonheur, et ne croyez pas ce mensonge du diable qui vous dit que vous, vous en êtes privé. Et on va d'ailleurs en parler, on va creuser ce sujet avec toi, Denis. On enchaîne donc avec la rubrique Conseil du coach.
Est-ce que vous avez déjà réalisé, permettez-moi l'expression, que la première grande conférence que Jésus a tenue sur la terre, du moins celle qui est documentée dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, portait sur la question du bonheur. Donc, Jésus a adressé cette notion, cette question du bonheur 2000 ans avant notre temps. Et si vous êtes un peu féru de philosophie, vous allez découvrir que les philosophes se sont penchés sur la question du bonheur seulement au 17e siècle. Donc, Jésus était avant-gardiste. Et lorsque je lis ces textes-là, je me suis posé la question, pourquoi Jésus avait adressé cette question du bonheur avec ces gens dans un pays brûlé par le soleil, rocailleux, où il semble que les besoins les plus importants, c'est davantage des besoins de nourriture, d'accès à eau, d'un toit pour se protéger, tout cela. Mais Jésus savait ce qui se tramait dans le cœur humain. Et reprendre un peu la pensée de Blaise Pascal qui disait « Tous les hommes recherchent d'être heureux, cela est sans exception. » Quelques différents moyens qu'ils emploient, ils tendent tous vers ce but. Donc, cette dimension du bonheur est une recherche et une quête qui est partagée par plusieurs. Et Jésus, dans l'évangile de Matthieu, à la fin du chapitre 4, le texte mentionne que Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle et tout ça, et la foule s'accumulait autour de lui. Le texte mentionne que sa renommée se répandait dans toute la Syrie. On peut imaginer le tableau. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem. Jésus, vous savez, n'avait pas un chef de campagne pour attirer les foules. Il attirait les foules à partir de sa présence, de son amour qui était attractif. Et à la fin du chapitre, au début du chapitre 5, on voit que voyant la foule, il se mit à enseigner. Donc, quand j'ai lu ce texte la première fois de voyant la foule, je me suis dit, mais qu'est-ce que Jésus a vu dans la foule? Parce qu'une foule, c'est une foule de besoins. Les gens sont tous différents les uns des autres et tout cela. Pour découvrir qu'en fait, une foule, c'est aussi un ensemble de besoins partagés par les gens. Et ça m'a amené à réfléchir à cette question du bonheur en disant, est-ce que le bonheur est une recherche qui est universelle? En fait, plus on s'éloigne des gens, plus on découvre qu'on est tous différents les uns des autres, mais plus on se rapproche, on le vit dans des discussions, plus on s'aperçoit qu'on a les mêmes préoccupations, les mêmes besoins. Donc, il y a ce qu'on appelle des besoins universels. Donc, le bonheur est une recherche, une quête qui est partagée par tous les gens, peu importe l'époque, peu importe les saisons, peu importe où ils peuvent vivre sur cette planète, peu importe encore une fois l'époque. Donc, Jésus propose ce bonheur à tous, il est ouvert à toute cette humanité de gens qui recherchent partout, à gauche et à droite, et parfois qui se perdent dans cette recherche-là, tout cela parce que c'est une quête. Mais en second lieu, Jésus a abordé l'action du bonheur dans une dimension très personnelle. Et si on fait simplement la lecture des béatitudes, on s'aperçoit qu'il y a différents éléments. Par exemple, le texte dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Si je vous posais la question, est-ce que vous avez déjà lu les Béatitudes? Certainement, vous allez me répondre, oui, j'ai lu les Béatitudes. Et si je vous pose la question en vous demandant de lever la main droite et de dire toute la vérité, et que je vous pose la question suivante, est-ce que vous avez compris les Béatitudes? Tout le monde dit, c'est super les Béatitudes, mais qu'est-ce que cela veut dire? Que veut dire être pauvre en esprit? Que veut dire être affligé, heureux des affligés quand ils seront consolés? Est-ce que les gens malheureux peuvent avoir accès au bonheur? Est-ce que le bonheur est dans les larmes? Parce qu'une autre version dit, heureux ceux qui pleurent quand ils seront consolés. Le bonheur est dans les larmes? Non. On peut parler de larmes de joie. Mais en fait, est-ce que ceux qui souffrent ont accès à cela? Et ce qui est étonnant de découvrir, c'est que chacune des béatitudes adresse une dimension très particulière de la nature humaine. Que ce soit l'attitude, que ce soit les blessures de nos vies qu'on ne peut pas évacuer spontanément comme ça. On n'a pas notre divine immunité en ce qui concerne les tragédies, les épreuves qui peuvent survenir. Donc, Jésus a adressé cela. Nos besoins personnels, nos aspirations, avoir soif de justice et tout cela. Nos relations aussi. Heureux ceux qui procurent la paix. La paix, c'est l'harmonie dans nos relations les uns avec les autres. Donc, dans toutes ces dimensions, Jésus adresse des enjeux très personnels. Donc, le bonheur, c'est pas simplement une espèce de package ou une espèce de lot ou avec ce qu'on lorsqu'on trouve ou lorsqu'on reçoit ce que l'on a, on a un bonheur complet dans toutes les dimensions de notre vie. La réalité, c'est qu'il faut voir ces aspects, ces zones dans notre vie où l'harmonie n'est pas là. Parfois, on peut être hyper heureux avec Dieu, mais pas très heureux dans nos relations. Donc, à ce moment-là, il faut pouvoir faire des ajustements. Donc, le bonheur est à la fois une quête qui est universelle, mais le bonheur est aussi une quête qui est personnelle, qui se manifeste dans ma condition personnelle de ma vie, mais c'est aussi quelque chose d'actuel. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on écoute les gens parler du christianisme, bien sûr, ceux qui sont non-croyants ou non-chrétiens disent souvent que le bonheur que propose le christianisme est un bonheur dans l'au-delà. Et c'est une façon, on a construit la notion de paradis à la fin de nos jours comme étant une espèce d'anesthésique pour endurer nos pauvres conditions. Mais quand on se penche dans le Nouveau Testament, on s'aperçoit que l'idée de Jésus, c'était dans la vie réelle et actuelle. Donc, Jésus est venu sur terre, envoyé par Dieu pour apporter la vie, mais aussi pour apporter le bonheur. Vous savez, il n'était pas sans savoir qu'il pénétrait dans la réalité de la condition humaine avec ce que cette réalité peut présenter de souffrance, d'injustice, de méchanceté, tout cela. Donc, la venue de Jésus sur terre était la démonstration que Dieu se souciait de la condition humaine, que Dieu se souciait de l'humanité. Donc, c'est un geste d'amour. Et je dis souvent à la blague, mais Jésus n'est pas venu les mains vides. Il a apporté avec lui quelque chose de précieux qui sont les béatitudes. Les béatitudes, c'est le bonheur de Dieu, c'est le bonheur selon Dieu, c'est le bonheur à la manière de Dieu. Donc, mais vous savez, le bonheur n'est pas quelque chose qu'on reçoit par la poste. Hein. C'est pas un colis. J'étais malheureux et tout d'un coup, j'ai reçu le bonheur. Le bonheur, c'est le résultat du réaménagement de ma vie dans des secteurs précis. Tout le monde recherche le bonheur, mais évidemment, c'est pas tout le monde qui sont heureux. Et il y a des gens qui vont toujours être malheureux dans leur vie parce qu'ils ne font pas ce qu'ils doivent faire pour être heureux. Par exemple, une partie du bonheur provient de l'harmonie dans mes relations. Donc, combien de fois on voit les conflits dans la famille, les conflits de génération, les conflits entre les parents et les enfants et tout ça? Et est-ce que je peux être heureux malgré tout ça? La réponse, non. Le bonheur va venir comme résultat du réaménagement de ma vie dans des secteurs précis. Donc, parce que Jésus a dit, voyons à la fois, le texte dit, il se mit à les enseigner. Donc, il n'y a pas à dire, écoutez, vous êtes tous malheureux, je vous donne le bonheur. Paf, et tous les gens sont devenus heureux instantanément, spontanément. Non, il leur a enseigné comment être heureux. Parce qu'encore une fois, il y a des stratégies, il y a des consignes à respecter, il y a des éléments de notre vie à rétablir, comme le pardon, comme le fait de rechercher la justice, comme le fait, par exemple, je pense à la première béatitude qui dit, heureux ceux qui sont les pauvres en esprit plutôt, car ils seront... Le royaume des cieux leur appartient. Alors, tous les gens qui sont remplis d'eux-mêmes. Être pauvre en esprit, c'est l'inverse de cette appellation moderne qu'on connaît, qui s'appelle le narcissisme. Ceux qui sont narcissiques sont pleins d'eux-mêmes. Et Jésus dit ici, c'est pas en étant plein de toi-même que tu vas être heureux, c'est en reconnaissant un petit peu ton besoin, la pauvreté de ta condition et tout ça. Et c'est là qu'on se tourne. Et c'est fascinant parce que le paradoxe de cette première béatitude, c'est que Jésus donne aux pauvres un royaume. Le royaume, c'est pour les forts, le royaume, c'est pour les riches, le royaume, c'est pour les puissants. Mais Jésus, dans sa façon de revoir la vie ou de revoir les priorités de la vie, a ramené ça à une autre réalité. La Bible nous dit, dans le Nouveau Testament, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, pas n'importe quelle loi, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, au travail, en action, mettant tout cela en pratique, celui-là sera heureux dans ce qu'il fait, sera heureux dans son activité. Nous retrouvons ça dans l'Épître de Jacques. Donc, le bonheur n'est pas quelque chose qui doit arriver un jour, c'est quelque chose qui doit prendre place dans la vie actuelle, dans la mesure où, encore une fois, j'aménage et je fais des correctifs que je dois faire pour ma propre vie. Mais il y a un quatrième élément important dans cette dimension du bonheur, c'est que le bonheur aussi peut être éternel. L'apôtre Paul a dit un jour, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Donc, au lieu de s'acharner sur quelque chose qui est de l'ordre de l'immédiat, de quelque chose qui doit prendre place, « j'ai pas encore ceci, j'ai pas encore cela », tout d'un coup, l'apôtre Paul nous amène à tourner nos regards sur quelque chose de beaucoup plus permanent. Parce que, faut le dire, le bonheur sur Terre, il n'est pas permanent. Et la vie est ainsi faite qu'il y a plein de situations qui surviennent. Mais un jour, nous savons que nous aurons ce bonheur total et ce bonheur parfait. Et la dernière béatitude, elle dit, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » C'est fascinant, encore une fois, parce que ce segment qui s'appelle les béatitudes commence par « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et se termine par « Ceux qui sont persécutés, car le royaume des cieux est à eux. » Et souvent, les gens disent que les béatitudes ressemblent un peu à la gamme muscade qui commence par le do et qui finit par le do. Ça commence par le royaume des cieux dans l'immédiateté, mais il se termine par le royaume des cieux dans le sens de l'éternité, parce que ce sont deux éléments, deux segments qui sont différents, mais ceux qui sont reliés l'un à l'autre. Donc, la personne qui est chrétien, qui malgré les conditions de la vie, c'est probablement une source de joie pour certains d'entre vous qui vivez des moments difficiles, que vous ne voyez pas le jour où telle situation va se dénouer dans votre vie, mais au moins vous pouvez juste un peu lever les yeux, regarder au-delà des circonstances immédiates et comprendre qu'un jour, nous allons vivre ce moment de bonheur total, un bonheur qui est difficile à imaginer sur le plan humain parce qu'on va être dans une autre réalité, mais on sait qu'à quelque part. Et ce texte fait allusion à la persécution. Moi, tous les gens disent, moi, je ne veux pas être persécuté, bien sûr, mais vous savez, les premiers chrétiens n'évitaient pas la persécution. Puis souvent, quand on parle des apôtres qui sont tous morts martyrs, les disciples de Jésus, du moins les 12 apôtres, à l'exception de l'apôtre Jean, on se pose la question, mais pourquoi ils ont accepté de tout cela? Ils ne sont pas fait enlever leur vie, ils ont donné leur vie, et c'est pas la même chose. Parce qu'ils ne voulaient pas perdre ce qu'ils avaient connu. Leur expérience du bonheur, leur expérience de la vie avec Jésus était tellement forte, tellement marquante, tellement profonde, qu'ils ne voulaient pas perdre cela. Le défi pour vous et pour moi dans la vie moderne, c'est justement de commencer à approfondir davantage notre vie, de creuser tout ça, de s'assurer que les bases sur lesquelles cette vie repose sont des bases beaucoup plus solides que tout ce qui peut nous être présenté autour de nous dans ce monde qui nous entoure. Et c'est là le grand défi, c'est un défi pour moi, c'est un défi pour tout le monde, pour chacun de vous, mais je veux vous encourager dans cette capsule à simplement tournez vos regards vers celui qui est la source première du bonheur, qui est Jésus lui-même.
Amen. Merci beaucoup, Denis. Tu peux venir nous rejoindre. Merci. Ça fait du bien de réaliser qu'effectivement, si on fixe nos yeux au bon endroit, on a accès à quelque chose de plus. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit à la fin par rapport aux disciples qui ont vécu justement ce temps avec le Seigneur, qui ont goûté à ce bonheur d'être côte à côte avec lui, alors que c'était juste en plus une portion, parce qu'on sait qu'au ciel ce sera bien mieux. Ouais. Et malgré ça, ce qu'ils avaient vécu avec lui, en fait, ils se sont accrochés jusqu'au bout, ils n'ont pas voulu le perdre parce qu'ils savaient ce qui les attendait au ciel. Exactement. Merci beaucoup vraiment, Denis. C'était très, très intéressant et très encourageant surtout. Mmh. On va se retrouver demain. Tu seras encore avec nous. Et demain, notre thème sera « Ta situation actuelle n'est pas une fatalité ». Et Denis, tu vas faire une rubrique famille sur « Bâtir une famille en bonne santé ». Demain, nous verrons qu'on est acteur aussi dans nos vies. On a un rôle à jouer et la vie n'est pas une succession de fatalités. Mais vous allez voir que c'est aussi une succession de bonnes ou de mauvaises décisions et qu'on est capable d'influencer aussi le cours de notre vie de cette façon-là. On se retrouve demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.